Donc je vais vous lire un extrait de « Bataille dans la montagne » de Jean Giono. On voyait maintenant le nouveau maître de la lumière. C'était le glacier, celui qu'on appelait la Traille de Villard, n'étant pas loin perdu là-bas au fond de tout le massif de montagne, mais suspendu juste au-dessus du village, loin dans le ciel, loin au-dessus du village, loin au-dessus de chênes rouges, loin au-dessus du pâturage, dominant des vallons endormis où jamais n'entrait le vent, assis sur des entassements noirs de schiste désert, sans une herbe ni un arbre, avec sa glace grise, bavant le long des vallons nus, deux ou trois torrents de fière brillant dans un bruit d'eau. Parce qu'il était trop haut dans le ciel, et que, ce qui trompait, c'était l'énorme masse de glace. Alors, on la croyait moins grosse et plus près, mais elle était terriblement grosse et très loin dans les profondeurs du ciel, étant enfoncée dans le ciel jusque dans les hauteurs où il n'est plus que comme un trou sans couleur. Et ainsi, on ne pouvait pas entendre le bruit des torrents, mais si on approchait, on entendait comme la galopade de chevaux aux gros pieds soudain débouler de l'écurie dans le soleil et le jour luisant. Et dès qu'on dépassait la corne de l'éboulis armade, et c'était le seul chemin possible pour y aller, d'ici, du côté de Chêne Rouge, on ne pouvait même pas s'approcher de lui, ayant soudain devant soi le gouffre des Avernières. Dès qu'on tournait la corne de Charmade, on voyait galoper les eaux blanches et les crinières d'écume qui flottaient au-dessus des rochers. Et, de là, on sentait déjà le manteau glacé vous couvrir et vous serrer. Il y avait déjà d'un côté et de l'autre de ce qui était le chemin, si on veut, des marques d'une grande force qui travaillait ou frappait ici dans la solitude. C'est à cet endroit-là qu'on pouvait voir des cœurs de granit cassés comme de la brique et de la poussière de silex, plus fines que du tabac à priser, et des sillons profonds jusqu'aux genoux qui charruaient droit tous les rochers sans s'inquiéter s'ils étaient durs ou non. Des sillons d'une charrue bougrement forte. Ce n'était qu'après avoir tourné trois fois dans les détours du vallon de schiste, avec tous ces chevaux d'eau cabrés contre vous et vous fouettant de leurs crinières froides et de leurs sueurs, qu'on voyait enfin le glacier. Il était là-haut, au bout du vallon. On s'approchait doucement. Il était bien placé sur la pente pour se défendre ou attaquer, vous regardant monter vers lui par le chemin tout découvert, avec, de chaque côté de vous, des pentes que vous ne pouviez pas remonter. Lui, bien posé au beau milieu avec ses épaules grises, plus épaisses que des maisons, sa petite langue de fer blanc ruisselante de salive, ses beaux yeux verts, pas deux, mais peut-être 20, avec cette profondeur de goudron qu'ils ont, et toutes ces lumières du soleil qui coulent dans leur caverne de glace. Mais maintenant, il n'y avait jamais personne dans le chemin de Charmade. Pour regarder la treille, on la regardait d'en bas, du Villard. On la laissait là-haut avec ses grappes blanches. Car on l'appelait la treille, parce que toutes ces énormes glaces suspendues étaient comme des grappes, si on veut, mais surtout parce qu'on avait eu pendant longtemps l'habitude montagnarde de confier à ce glacier le soin de mûrir le vin vert que le village tirait de ses vignes pauvres. Là-bas, vers Prébois, une conque de terre bien orientée, et il y avait quelques vignes sur les pentes. Chacun y avait son morceau, le vin qu'on tirait de ces petits raisins à peine plus gros que des fleurs de muscarie était âcre et brûlant comme de la sueur de bœuf. On avait des outres faites avec la peau complète d'une chèvre, et vers octobre, on choisissait un jour clair, déjà serré avec un grand vent. On attendait ce grand vent solide qui fait chanter à la fois les arbres et les échos de toutes les montagnes. On chargeait tout le train de mulets. C'était un travail qui se faisait en commun. Il y avait généralement une vingtaine de bêtes et les hommes libres les menaient. Le chemin de Charmade n'était presque pas mauvais de tout le long, tout au moins tant qu'on était dans les forêts grondantes de ce vent lourd. Et même quand on commençait à monter à travers les boulis, tout se faisait bien car on avait entretenu soigneusement les passages. Alors, le train muletier s'entortillait dans cette muraille de pierre comme un serpent avec tous les mulets floqués de laine de toutes les couleurs, les outres gonflées de vin encore pareil à des bêtes aux pattes raides, toutes les clochettes sonnant et parfois un homme qui chantait. Et le grand vent écrasait ce bruit dans tous les échos. Il y avait là-haut des cavernes de glace, aussi solides que des caves de ciment. On y couchait les outres dans un lit de neige. Alors, d'en bas, pendant les journées limpides d'hiver, quand on regardait le glacier, c'était bien la treille, parce que, perdue dans une de ces énormes grappes de glace, si énormes justement à cause de l'hiver qu'on les voyait bosseler la couverture de neige fraîche, là-haut, il y avait le vin du village que le froid était en train de mûrir. C'est vers la mi-juin qu'on retournait là-bas. Souvent, il fallait déganguer les outres à coups de pique, doucement et avec délicatesse, mais elles étaient prises dans la glace comme ces noix dans le miel quand le gâteau est trop cuit. C'était généralement vers le 14 juin, le 15. Cette fois-là, ça avait été le 16.